Bonsoir à tous, merci d'être nombreux ce soir. Voilà, Markus Steinweg, que j'ai invité ici ce soir, et va nous parler de la philosophie aveugle. C'est un petit peu dans le cadre d'une série d'expositions, comme le disait Annie, qui s'appelle L'homme nu et qui a occupé toute l'année 2007 le centre d'art. Là, nous sommes, vous avez sans doute pu traverser le troisième volet. Qui s'appelle Art de faire. Et pour vous dire deux mots très rapidement sur cette série d'expositions, l'idée était d'aborder un certain nombre d'œuvres avec le regard d'un anthropologue et à partir de ça, de découvrir trois types. Après, j'ai regroupé en fait des œuvres sous trois volets, le premier étant des œuvres sous la... sous le sur comment pardon, représente sur la représentation humaine, le deuxième volet étant plutôt dédié à l'environnement de l'homme, sur le paysage et sur l'animalité, et le troisième volet regroupe un certain nombre d'œuvres sur le mode de vie, donc comme vous avez pu peut-être le voir, l'idée de transport, l'idée d'outillage, l'idée d'habitat, l'idée de pratiques religieuses ou pratiques un petit peu superstitieuses. Voilà. Et j'avais commandé un texte à Markus pour le catalogue qui va apparaître normalement en mars 2008. Et il avait écrit un texte qui s'appelait « Le sujet sans subjectivité » qui travaillait un petit peu, enfin qui réfléchissait sur l'idée de la nudité dans la philosophie. Voilà. Donc je laisse la parole à Markus ce soir.
Oui, merci beaucoup. Je suis philosophe, alors je propose ce soir une conférence philosophique et j'ai choisi le titre « Philosophie aveugle ». Et mon idée, c'est de donner une définition de la philosophie. Je pense que chaque philosophe donne sa propre définition de la philosophie. Gilles Deleuze et Félix Guattari disent que la philosophie, c'est créer des concepts. À mon avis, la philosophie, c'est de donner son propre concept de philosophie. Son propre concept de philosophie, comme par exemple le devoir de l'art, c'est de donner son propre concept d'art. Alors la question, ce n'est pas de s'inscrire dans un champ disons préexistant dans le champ philosophique traditionnel pour continuer une tradition philosophique. La question, c'est plutôt de donner sa propre définition, son propre concept de philosophie. Et j'ai choisi quatre concepts ce soir pour faire ceci, pour essayer de vous présenter une définition de la philosophie pour donner une réponse sur la question qu'est-ce que c'est la philosophie. Ces quatre concepts sont amour, totalisme, accélération et précision. Je vais essayer de définir la philosophie, comme j'ai dit, à travers de ces concepts. Le mot philosophie est un mot grec, tout le monde le sait. Et dans ce mot philosophie, il y a le philos, l'ami ou l'amoureux. Disons, le concept d'amour s'est déjà inscrit dans la notion de la philosophie même. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et pourquoi la philosophie est une pratique d'amour? Ma définition d'amour, la définition peut-être la plus simple, c'est que aimer, c'est toucher l'autre en tant qu'autre. Ça veut dire on aime l'autre en tant que quelqu'un qu'on ne comprend pas. Alors, la philosophie en tant que pratique d'amour est un mouvement vers l'autre dans son incommensurabilité ou vers l'autre dans sa incompréhensibilité. Alors, il faut aimer parce qu'on ne comprend pas. Et on n'aime jamais ceux qu'on comprend, on n'aime jamais ceux qu'on maîtrise, on n'aime pas ceux qu'on contrôle, et parce qu'on ne contrôle pas l'autre, en tant qu'autre, parce que l'autre dépasse ma compréhension ou ma capacité de comprendre. Je suis, je dois l'aimer. Je dois l'aimer dans son incommensurabilité. Ça veut dire, j'aime l'autre dans un mouvement ou dans un mouvement, dans un tout. Je touche l'autre en tant qu'intouchable. Et alors la dimension de l'incommensurabilité, c'est la dimension, disons, de l'intouchable, comme on pourrait dire. Et la philosophie, c'est le sujet de la philosophie. Le philosophe prend le risque d'un certain contact avec cette dimension. Et une des questions les plus fondamentales de la philosophie, bien sûr, c'est la question, qu'est-ce que c'est l'être humain? Qu'est-ce que c'est le sujet, la condition, c'est la question de la condition du sujet humain. Et la définition que je vous propose ce soir, c'est un sujet est déjà, par définition même, déjà en contact avec la dimension de l'incommensurabilité, qui est la dimension de l'autre, de l'autre, ou qui est la dimension de l'incompréhensible, ou qui est la dimension de l'inconnu, ou qui est la dimension du non-subjectif. Alors, qu'est-ce que c'est un sujet? Le sujet, en tant que sujet, c'est déjà transgressé vers cette dimension de la non-subjectivité, vers cette dimension d'un réel qui n'appartient pas au sujet même. Alors le sujet, c'est l'ouverture envers cette dimension de l'autrui ou cette dimension de la non-subjectivité. Et la définition de l'amour philosophique que je vous propose, c'est que aimer, c'est affirmer cette ouverture qui a déjà eu lieu. Alors c'est pas une ouverture, disons, a posteriori, comme on dit dans la philosophie. C'est pas une ouverture, alors c'est pas un transgressisme, disons, une transgression plutôt romantique a posteriori que je défends en tant que sous le nom de la philosophie ou sous le nom du sujet de la philosophie. C'est plutôt que le sujet de la philosophie est déjà, alors a priori, ouvert vers cette dimension de la clôture de son subjectivité. Et ce que je nomme un sujet sans subjectivité, c'est un sujet qui ne profite pas d'une subjectivité transcendantale ou universelle dans le sens classique de ces mots. Et par exemple, dans la tradition de la philosophie du idéalisme allemand, Kant et Fichte, Schelling, Hegel, alors dans la philosophie moderne, comme on pourrait dire, qui commence, pour simplifier, il faut toujours simplifier, prendre le risque d'une certaine vulgarité même dans la philosophie. Et pour simplifier, je dirais que la philosophie, que la philosophie moderne, qui commence avec Descartes, que cette tradition de la philosophie moderne, c'est la tradition d'un certain sujet, mais ce sujet est un sujet, chaque sujet, disons, singulier ou empirique, est sujet parce qu'il participe à cette structure universelle ou transcendantale qui est nommée la subjectivité transcendantale dans la pensée de Kant et dans le XXe siècle de Edmund Husserl. Et en m'opposant à cette tradition, à cette définition du sujet empirique qui est sujet parce qu'il participe à cette structure universelle d'une subjectivité transcendantale, j'invente un autre concept du sujet humain. Et le sujet, c'est justement un sujet sans subjectivité. Alors un sujet dans une solitude, disons, ontologique. Un sujet qui ne profite pas d'une universalité établie, d'une structure, disons, positive, qui est la subjectivité transcendantale dans la pensée de Immanuel Kant. Pourquoi alors amour? Aimer, comme je disais, c'est toucher l'autre en tant qu'autre, c'est toucher l'intouchable, la dimension de l'intouchable. Et cette dimension, bien sûr, dans une lecture moins orthodoxe, dans la tradition de la philosophie, disons, pour qui commence avec Nietzsche, la seconde modernité, le moderne de la philosophie qui commence avec Nietzsche, dans cette tradition, ce sujet sans subjectivité apparaît sous des noms ou des titres différents. Alors chez Nietzsche, on pourrait dire, c'est le sujet du devenir. C'est un sujet qui n'est pas un sujet stable, ontologiquement stable, mais c'est un sujet du werden, c'est le mot allemand, du devenir. Et plus tard, bien sûr, Deleuze et Guattari ont repris ce terme, et avec un autre terme, un terme nietzschéen aussi, c'est le terme du chaos, de chaos. Alors le sujet, chez Deleuze et Guattari, ce sujet sans subjectivité apparaît comme un sujet du devenir et comme sujet du chaos. Et le chaos, c'est encore un autre nom, un autre titre pour cette dimension de la non-subjectivité ou pour cette dimension de l'incommensurabilité ou pour cette dimension de l'innommable. Et dans la philosophie de Heidegger, qui a publié son grand œuvre Être et Temps en 1927, ce sujet sans subjectivité apparaît comme le sujet de la Unheimlichkeit, je ne sais pas en français, de l'inhabitable, je crois que c'est ça la traduction française, de l'inhabitable. Plus tard, c'est Maurice Blanchot, comme vous savez, qui est très très influencé de Heidegger, qui reprend cette notion pour inventer un autre concept dans la tradition de la philosophie du XXe siècle, et ce autre concept, c'est le concept du dehors. Du dehors. Alors le sujet de l'incommensurabilité ou le sujet sans subjectivité apparaît dans cette pensée de Blanchot en tant que comme sujet du dehors. Le dehors, c'est pas c'est une structure ontologique. Comme philosophie, c'est ontologie, et ontologie, ça veut dire c'est la philosophie de l'être. Alors la question de la philosophie, c'est qu'est-ce que c'est cet étant concernant son statut d'être. Ça, c'est la question de l'ontologie, la question, si on veut, classique, philosophie classique. Et même si je m'oppose, comme tous les philosophes, des différents aspects de cette tradition, il me reste très important d'insister sur la philosophie en tant qu'ontologie, ça veut dire en tant que philosophie d'être. Et le dehors, ou l'incommensurabilité, ou la dimension de la non-subjectivité, c'est une structure ontologique qui nous aide à comprendre ou à donner une réponse à cette question du sujet. Alors, c'est pas le dehors, c'est pas juste un concept qui est opposé à l'intériorité, parce que ça, ce sont les, disons, ces structures binaires, l'intériorité et le dehors, activité, passivité, masculin, féminin, etc. On sait très bien que la philosophie classique s'organise à travers de ces bipolarités ou ces systèmes binaires. Et Jacques Derrida, encore un autre philosophe français, a bien montré que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas blanc ou noir, c'est pas un intériorité ou un extériorité, mais le vrai concept du dehors, le vrai concept de l'extériorité, c'est plutôt, alors où est-ce qu'on pourrait, dans cette structure classique, situer, disons, le dehors ou l'incommensurabilité? Et ma proposition, c'est le dehors, c'est pas ceux qui s'opposent, ou l'extériorité, c'est pas ceux qui s'opposent à l'intériorité, mais c'est plutôt le conflit indécidable, alors l'espace conflictueux, indécidable entre ces dimensions, idéalité, réalité, activité, passivité, intériorité, extériorité. Alors le sujet sans subjectivité est un sujet qui est situé dans cette zone de conflit entre ces binarités classiques, comme par exemple extériorité et intériorité. Et comme je disais, amour, je défends ou j'affirme la philosophie en tant comme une pratique d'aimer, d'amour, parce que aimer, c'est dépasser son intériorité vers l'extériorité de l'autre, vers l'autre qui est toujours de trop, qui est toujours incompréhensible dans ce sens-là, l'autre dans sa totalité. On n'aime pas si on n'aime pas l'autre dans sa totalité, et ça veut dire il faut aimer parce qu'on comprend pas l'autre, parce qu'on a affaire avec l'autre comme quelqu'un qui est en dehors de moi-même. En dehors de moi-même, quelqu'un qui n'est pas moi. C'est pas moi, il est irréductible à la dimension, disons, de ma propre égoïté. Et c'est pour ça que je vous propose une définition de la philosophie à travers de l'amour. La philosophie est un mouvement d'accélération vers cette dimension de l'incommensurabilité. Et en ce moment, je suis en train de finir un livre sur Marguerite Duras. Et vous vous souvenez, dans Hiroshima, mon amour, ce film de Alain René, il y a cette scène au début qui se répète. C'est Marguerite Duras qui a écrit le script du film. Et le film, c'est de 58, je crois, 58 ou 59. Et ce script ou ce film commence, ça joue à Hiroshima après la bombe était jetée, et une femme et un homme, une Française et un Japonais se rencontrent, et il y a ces phrases très très célèbres. C'est la femme qui dit au Japonais, j'ai tout vu à Hiroshima. Et elle est là, elle est journaliste, et l'homme répète, tu n'as rien vu à Hiroshima. Ce qui m'intéresse dans ce vocabulaire, c'est bien sûr le rien et tout. Et disons, du point de vue classique, un peu banal et classique, on voudrait dire, ce sont des dimensions contradictoires, ou tout ou rien, mais c'est pas la même chose. Mais moi, je pense que tout ou rien, c'est la même chose. C'est la totalité du rien, alors disons du néant, ou la totalité du tout. Et le sens philosophique de ces mots, disons, de ces grands mots, de ces grands concepts comme totalité, ou le néant, ou le rien, c'est à mon avis de nommer justement cette dimension de l'incommensurabilité, parce que le tout n'existe pas et le rien n'existe pas. C'est ça le sens philosophique de ces mots. Et la philosophie, ou le sujet de la philosophie, est un sujet qui s'aperçoit, qui comprend d'un coup que il est déjà en contact avec cette dimension du tout ou cette dimension du rien ou du néant, ou on pourrait aussi dire la dimension du vide. Alors je fais pas la différence entre la totalité des choses, qui est toujours une totalité incontrôlable. Le sens philosophique de cette totalité, c'est justement qu'elle n'est pas compréhensible, c'est de trop, et le néant, c'est la même chose, ou le vide, c'est de trop, il y a trop de vide. Alors le sujet, sans subjectivité, le sujet de la philosophie est un sujet qui s'accélère vers cette dimension où il risque de perdre le contrôle de soi-même. Et alors il est déjà un sujet d'une certaine transgression a priori, ou d'un certain d'un certain excès a priori. Et aimer, on sait très bien, l'expérience de l'amour est une expérience d'une certaine perte de soi. En allemand, on dit Liebe macht blind. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, en français. L'amour aveugle, rend aveugle. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Philosophie aveugle, parce que j'insiste sur le fait que la philosophie n'existe. La philosophie, c'est pas le savoir. La philosophie, ce n'est pas la sagesse, comme le zophon grec est traduit dans ce mot philosophia. Alors le philosophe n'est pas l'amoureux de la sagesse, mais c'est plutôt l'amoureux de cette dimension de l'incommensurabilité. Alors c'est un sujet pour comprendre soi-même, pour donner une définition de son statut ontologique, il doit affirmer, disons, ce vide dans un acte, et cette affirmation de cette dimension du vide ou de l'incommensurabilité est bien sûr aussi en même temps une affirmation de cette accélération, alors de cette cécité ou de ce aveuglement ontologique. Moi je trouve c'est ça qui est très beau dans l'expérience philosophique, l'expérience philosophique est une expérience qui porte le sujet en dehors de soi-même. Alors la question, c'est pas de se stabiliser à travers d'un concept ontologique du soi ou de la égoïté ou de la subjectivité, mais c'est plutôt de affirmer l'impossibilité de trouver ou de développer un concept stable de soi-même. Et c'est ça, il me semble, que dit Nietzsche quand il parle du devenir. Devenir, ça veut dire ça s'est pas déjà arrêté. Ça il reste une certaine ouverture vers la dimension de l'incommensurabilité, qui est bien sûr aussi la dimension du futur ou de l'avenir. Alors, une ouverture vers cet espace de la contingence. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va passer demain. On ne connaît pas le futur, on ne connaît pas l'avenir. Mais on est quand même, en tant qu'être humain, en tant que sujet humain, on est déjà, disons, dans ce contact avec cette dimension qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas définir d'une manière, disons, satisfaisante. Et le devoir philosophique, c'est pas de nier le fait qu'on se contrôle pas, mais c'est plutôt d'affirmer soi-même en tant que cette ouverture. Le sujet, c'est précisément la scène de cette ouverture vers la dimension de la contingence ou vers la dimension de l'incontrôlable qui est l'avenir. Et le contre-concept, bien sûr, du concept de contre-concept de ce sujet sans subjectivité, c'est le sujet narcissique. C'est quoi le narcissisme? Narcissisme, c'est vivre ses fantasmes, vivre sa propre vie sans commencer à vivre même, vivre sa vie, pas la vie dans son statut incommensurable, pas le non-vivable de sa propre vie, alors ce qui n'est encore pas décidé, la vie dans sa pleine, dans sa beauté bien sûr, mais aussi dans sa cruauté, dans sa contingence. Dans ça, la vie n'est pas juste, et expérimenter ou vivre, c'est bien sûr faire l'expérience que la vie, c'est quelque chose qui nous échappe, et on vit quand même. Et comment vivre cette vie qui nous échappe, comment vivre notre propre futur? Je crois que c'est ça une des questions principales de la philosophie, et cette ouverture vers cette dimension du non-vivable de notre vie est une ouverture qui mène, qui fait du sujet un sujet aveugle, un sujet qui accélère vers sa propre, vers son propre aveuglement. Et c'est, alors c'est pas seulement la question d'amour, mais c'est aussi la question de la philosophie, de s'affirmer en tant que sujet de l'amour, en tant que sujet de la philosophie, de s'affirmer comme un sujet de cette cécité et de ce aveuglement ontologique. Le deuxième concept que j'ai choisi, c'est totalisme. Bien sûr, totalisme, ce n'est pas un concept politique comme totalitarisme. Il faut faire la différence entre totalisme et totalitarisme. Et le totalisme philosophique est quelque chose tout à fait différent que le totalitarisme politique. À mon avis, je pense que le totalitarisme politique est justement un particularisme des intérêts. Et il est basé sur un concept, toujours sur une structure d'exclusion. Alors, et le totalisme philosophique, c'est bien sûr l'universalisme philosophique, mais c'est cette notion de l'universalisme a précisément le sens d'une totalité, comme je disais, qui échappe, alors de l'incommensurable, d'une totalité incommensurable. Et le sujet de la philosophie est un sujet qui surmonte, qui dépasse les intérêts, qui dépasse le particularisme des intérêts, qui dépasse le relativisme ou le opportunisme politique pour se définir comme un sujet qui dépasse cette relativité pour toucher cette dimension de la totalité qui est bien sûr une totalité, et ça c'est très très important, pas donnée, non existant d'une manière. Alors la totalité encore, c'est encore une autre notion ou un autre nom pour cette dimension de l'incommensurabilité. Ce que j'aime dans la philosophie, c'est la même chose avec l'art, c'est que il faut un certain courage, parce que c'est assez facile de se définir à travers de ses intérêts, mais la philosophie, c'est quelque chose d'autre, de se définir à travers, disons, sa situation particulière. Je suis né dans cette culture, dans cette situation historique, politique, économique, et bien sûr, tout ça, ça appartient au statut objet, du sujet dans la réalité, disons, établie, officialisée. Et moi, j'appelle ça le statut objet. Et la réalité, alors l'univers des faits, le sujet dans la réalité ou le sujet dans l'univers des faits est un sujet qui se réduit sur son statut objet dans une réalité déjà définie. Alors, une réalité qui est déjà terminée d'une manière. Et je pense que philosophie, c'est de ne se pas arrêter ici. On sait très bien que la philosophie des derniers 50 ans, après Nietzsche et avec Nietzsche, la philosophie française, surtout des grands philosophes comme Jacques Derrida, comme Gilles Deleuze, par exemple, il évite les grands concepts métaphysiques, comme il appelle ça, alors disons la conception de l'être humain en tant que sujet, où il évite d'utiliser ce vocabulaire un peu hyperbolique comme totalité. Et moi je pense la philosophie, c'est quand même de dépasser le relativisme des petits concepts, et c'est dépasser dépasser le opportunisme de la situation ou du sujet qui se définit totalement à travers de sa situation sociale, politique, etc., biologique même, etc. Et c'est ça qu'est-ce que j'appelle le totalisme de la philosophie, de ne se pas arrêter dans la définition de l'être humain ou du sujet humain, de ne se pas arrêter, de ne pas réduire le sujet humain sur son statut dans la réalité établie, mais plutôt, sans bien sûr le nier, bien sûr, c'est une confrontation double, il faut confronter soi-même en tant que produit de l'histoire, un produit de la culture, produit des déterminations qu'on contrôle pas. Alors, il y a aussi le statut objet du sujet et le statut, disons, passif. Et cette passivité, bien sûr, elle appartient à la structure ontologique du sujet humain. Mais il me semble que ça suffit pas de s'arrêter ici parce que, comme on a fait trop souvent, je trouve, pour finalement réduire le sujet ou pour enfermer le sujet dans sa passivité ontologique. Alors la double confrontation, c'est confronter ce statut objet sans mais en même temps ne pas accepter, disons, cette auto-victimisation d'un sujet qui se définit en tant que produit. Alors, il faut dépasser son statut produit. Et c'est ça qu'est-ce que j'appelle justement totalisme. C'est dépasser la relativité des faits. Et c'est ça la définition que je donne du sujet sans subjectivité, que c'est un sujet de ce dépassement, de cette auto-accélération ou de cette auto-élévation en relation ou au milieu, au centre de l'univers des réalités établies. Vous connaissez cette différence très persuadant ou persuasif qui faisait Jacques Lacan entre ces deux notions, réalité et le réel. Et le réel, c'est le nom lacanien, le titre lacanien pour cette dimension de l'incommensurable. Le réel, c'est justement ceux qui se ne laissent pas réduire sur la réalité, qui n'est pas assimilable à la réalité officialisée, établie. Et c'est ça qu'est-ce que j'appelle la totalité. C'est un autre nom pour cette structure du réel. Alors maintenant, nous avons plusieurs mots pour définir, à travers de l'histoire, de la philosophie, cette structure ontologique dans laquelle je situe ou j'essaie le sujet sans subjectivité. C'est ou le dehors, ou le devenir, ou la totalité, ou le vide, ou le réel dans le sens lacanien. Le troisième concept que j'ai choisi pour donner une définition de la philosophie aveugle et de ce sujet aveugle, c'est accélération. Alors, il y a une certaine vitesse dans la philosophie, et cette vitesse, c'est une vitesse qui traverse justement la réalité en tant que réalité établie, officialisée et établie. C'est ça qu'est-ce que j'appelle l'accélération, et c'est l'accélération, bien sûr, de la vie même. La vie, c'est tout, elle est toujours trop vite. Elle croise ou elle dépasse déjà le sujet en tant que sujet disons, autonomie totale ou d'une contrôle de soi totale, etc. Alors, accélération, c'est un concept qui définit le sujet comme quelque chose qui dépasse, qui ne se laisse pas réduire à son statut stable ou à son statut objet ou à son statut victime dans les réalités établies ou dans l'univers des faits, comme j'appelle cette réalité établie. Alors, c'est toujours, et comme dans l'amour, la philosophie, ou comme l'amour, ou la philosophie en tant que pratique de l'amour, est un mouvement aveugle, parce que dans cette accélération vers l'autre en tant qu'autre, il faut prendre le risque d'un certain manque de savoir, d'un certain manque de compréhension, d'un certain manque de contrôle. Et c'est ça le sens de l'accélération, parce que on touche l'autre en tant que autre, en tant que celui qui est en dehors de moi-même, que je comprends pas, dans un mouvement qui est toujours trop vite. Et c'est ça qu'est-ce que j'appelle, avec un autre mot, un grand concept philosophique ou non, décision. Alors il faut, et c'est ça la différence que j'ai commencé à vous proposer entre le sujet narcissique, qui est le sujet du choix, et le sujet sans subjectivité, qui est le sujet de la décision. C'est quoi la différence entre choix et décision? Le choix, c'est thé ou café. Le sujet du choix choisit en relation ou dans il choisit en relation à un système des alternatives déjà données. Qu'est-ce que vous voulez boire, du thé ou du café? Et une décision, c'est plutôt de dépasser, disons, ce système des alternatives. Et pour toucher la limite ou la inconsistance de la réalité établie en tant que ce système des alternatives ou des options. Et bien sûr, pour les philosophes, c'est la même chose comme pour tout le monde. La plupart de notre temps, on passe notre temps en faisant des choix. On n'est pas toujours dans le héroïsme philosophique. En tout cas, c'est pas trop la question d'un héroïsme, mais c'est plutôt la question d'une certaine affirmation de soi-même comme un sujet qui se laisse pas réduire sur son statut objet. Et c'est ça qu'est-ce que j'appelle le sujet de la décision. Et dans ce mot décision, il y a déjà la coupure, decision en anglais, c'est la même chose comme en français. En allemand, c'est Entscheidung. Et je pense que il y a des situations dans la vie où il devient nécessaire de dépasser sa propre situation. Alors, il y a les situations dans lesquelles il faut prendre le risque d'une décision. Alors, vraiment, de couper, couper ce contact avec la réalité établie pour faire une décision, alors pour toucher l'intouchable. Alors, par exemple, comme j'ai commencé avec le concept d'amour, la question d'amour ou la situation du sujet amoureux est un sujet de décision. Et c'est pas c'est pas un sujet du choix. Si on choisit, on n'aime pas. Si on se décide, il y a déjà un symptôme que quelque chose, disons, de vrai se passe. Parce que la décision porte le sujet, comme je disais, en dehors de soi-même, et il le force d'affirmer soi-même en tant que sujet de cette accélération, de cette vitesse ontologique. Et dans cette vitesse, dans cette décision, une décision, c'est toujours trop vite. Parce que on comprend pas la totalité, comme je disais, la situation dans sa incommensurabilité. Et bien sûr, c'est pas l'espace des visibilités claires et évidentes, mais c'est plutôt l'expérience de la limite de ce système des clartés et des évidences, qui est la réalité établie. C'est plutôt l'expérience d'un certain aveuglement. Et alors, on aime parce qu'on aime aveugle, parce qu'on s'affirme soi-même en tant que sujet de ce aveuglement. Et je vous donne un exemple assez simple. Je crois que la différence entre le narcissisme, qui est un autre nom pour la non-capacité de aimer, la non-capacité de s'affirmer soi-même en tant que sujet de décision, la différence entre ce sujet du narcissisme et le sujet aveugle, ou le sujet philosophique, ou le sujet de l'art, le sujet de la décision, la différence, c'est que le sujet du choix, le sujet narcissique, est un sujet qui est calculatoire. Alors, c'est un sujet qui d'une manière réfléchie de trop. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter avec des personnages extrêmes narcissiques, qu'ils ont des grands problèmes à faire une décision. Parce que ils ont toujours dans la tête, peut-être il y a encore quelque chose d'autre de mieux. Alors ils sont même incapables de faire des choix des fois, parce que il expérimente le choix ou la situation du choix comme une situation de décision et la nécessité d'une décision ou de faire ou de prendre le risque d'une certaine décision. Et bien sûr il faut un certain courage, il faut aussi un certain vouloir. Il faut accepter qu'on paye pour chaque décision. Et payer, c'est bien sûr comme aimer, on n'aime pas si on n'aime pas de trop. Et c'est la même chose avec payer, on paye pas si on paye pas de trop. Alors si on paye exactement le prix, on n'a pas payé. Et si on aime on partage, disons, l'expérience amoureuse avec quelqu'un d'autre, 50% chacun. Alors, disons, dans cette vulgarité narcissique, à mon avis, on peut plus parler d'amour. Aimer, c'est justement de s'affirmer soi-même en tant qu'un sujet qui accepte de payer de cette manière hyperbolique, de cette manière non économique. Et des fois, je donne cet exemple sur des conférences, et c'est nécessaire maintenant de revoir ce film de Godard. Je crois que c'est dans Le Mépris, elle et moi, si vous le savez mieux, cette scène dans le lit, c'est Jean Belmondo et Jean Seberg, c'est ça. Et si je me souviens bien, c'est pas trop important si c'est faux. Okay. Je veux juste donner un exemple, pardon. À bout de souffle, ok, merci, déjà une faute. Et mais ce que je me souviens, c'est que elle lui demande dans le lit, je crois, pourquoi tu m'aimes. Si c'est pas ça, c'est pas important. Pour moi, c'est important, en tout cas. Même si c'est pas Godard. Et pourquoi tu m'aimes? Et lui, il donne des réponses. Il donne des réponses, comme je t'aime à cause de la beauté de tes cheveux, je t'aime à cause de c'est le mépris, ok. Ok, ouais, ok. Oui, c'est ça. Ça fait très longtemps que j'ai vu le film, excusez-moi. Mais je veux juste donner un exemple, et bien sûr, lui, il peut continuer à dire je t'aime à cause de ton humour, à cause de ta beauté, à cause de ton intelligence et blablabla. Et une chose au moins est tout clair, que elle ne va jamais être satisfaite. Et parce que tout ce qu'il dit finalement, c'est que je t'aime pas. Je t'aime pas parce que je fais ce calcul. Je te mets dans l'économie du calcul et je fais cette addition de tes qualités. Et c'est ça qu'est-ce que j'appelle justement le particularisme des intérêts ou le particularisme de la situation ou de la relativité. Et aimer, c'est dépasser ce l'économie ou le calcul des intérêts. Mais quand même, il y a un certain sens d'amour ou un certain sens aussi de passion ou de sentiment ou de dans la philosophie ou pour la philosophie. Et moi, je pense que la philosophie, c'est préciser ses passions, mais préciser dans ce mouvement d'une accélération. Alors, dans cette vitesse qui me porte en dehors de moi-même. Alors, mais ça veut pas dire que je me jette, disons, dans l'océan d'un amour fantasmé ou idéalisé, et romantique. C'est pas ça. C'est pas le romantisme, disons, narcissique. Mais c'est plutôt de s'affirmer soi-même en tant que sujet de ce dépassement de ma propre subjectivité dans cette accélération vers l'autre, alors disons dans ce mouvement d'une auto-accélération. Et ça me mène maintenant au quatrième concept, c'est le concept de la précision. comme je suis invité à parler dans un centre d'art et comme je travaille avec des différents artistes, surtout avec Thomas Hirschhorn, qui est mais moi en tant que philosophe et Thomas en tant qu'artiste, je me pose on se pose bien sûr chacun pour soi d'abord la question qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce que c'est la philosophie, qu'est-ce que c'est la relation entre art et philosophie. Et nous sommes décidés de parler de l'amitié entre art et philosophie. Et cette amitié, cette relation amicale entre art et philosophie, je crois que, bien sûr, c'est très, très, très formalisé de ne pas faire la différence entre art et philosophie au niveau ontologique ou structurel. Mais pour moi, c'est vrai, moi, je pense pas trop à ces différences. Moi, je crois que ces différences sont, nous mènent dans le particularisme, parce que l'art, si art est affirmation de forme, la philosophie, elle aussi, elle est affirmation de forme. La forme de la philosophie, c'est le langage. C'est écrire un texte, chacun qui a essayé à écrire un texte ou philosophique ou littéraire, mais un texte, disons, sérieux, d'une manière sérieuse, fait cette expérience de la forme, fait l'expérience d'une nécessité, d'une certaine architecture texturale. Et les grandes œuvres philosophiques, comme la phénoménologie de l'esprit de Hegel, par exemple, ou la critique de la raison pure de Kant, ce sont des... La beauté de ces livres, à mon avis, c'est aussi la beauté de l'architecture de ces livres. Ce sont des grandes architectures, des grands systèmes, des fois, et des grandes architectures, des architectures excessives ou des architectures hyperboliques. Je pense que, concernant la notion de la précision, c'est très important de s'apercevoir que l'accélération et l'aveuglement doivent être précisés. Alors, c'est pas ou précision ou excès, mais c'est plutôt la précision de l'excès et l'excès de la précision. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme quatrième terme ce terme de la précision, parce que la précision, la précision de son propre vouloir, la précision de mes passions, ou la précision de mes passions, la précision de ma vie, c'est un synonyme pour cet acte de auto-précision, c'est intégrer le non vivable, disons, dans sa propre vie, intégrer sans le assimiler. Et je crois que c'est ça qui fait de la philosophie cette pratique hyperbolique, exagérée. La philosophie n'est pas trop dans la modestie, et c'est ça qu'est-ce que j'aime dans la philosophie, parce que la modestie, c'est la modestie des particularismes, c'est les petits pas, et il y a des situations politiques où je comprends très très bien que c'est nécessaire de faire des petits pas et pour éviter le risque de la décision ou d'une grande décision ou de ce que Nietzsche a nommé la grande politique. Mais pour la philosophie et concernant aussi la responsabilité politique d'une philosophie qui n'est pas une philosophie politique, c'est justement de préciser ce aveuglement ou ce contact avec l'invisible, avec l'inconnu, avec le futur ou l'avenir, ou avec cette dimension de l'innommable. Et alors, c'est quoi un sujet sans subjectivité? C'est un sujet qui a le courage de vivre. C'est très très simple, je crois. Le courage de vivre, ça veut dire de ne pas s'enfermer dans une image, un beau image d'une vie au-delà de toute violence, au-delà de tout manque de justice, au-delà de l'incontrôlable, au-delà de la peine. Moi, je crois que le bonheur philosophique, mais le bonheur pour le sujet du bonheur est toujours situé sur le côté, ou est toujours du côté de la décision. Ça veut dire du risque, de ce risque affirmé de toucher l'intouchable, ou de vivre soi-même en tant qu'un sujet de manque de contrôle total de soi-même, ou c'est le courage, ce bonheur, c'est le est aux côtés d'un sujet qui, au lieu de s'enfermer dans ce narcissisme non courageux, je connais pas le mot français, c'est plutôt un sujet qui affirme sa propre vie dans cette totalité. Ça veut dire qui s'affirme soi-même comme un sujet d'une autonomie qui n'est pas une autonomie fantastique ou idéalisée, mais cette autonomie est déjà en contact avec l'hétéronomie, avec les déterminations dans l'espace des faits réels, dans cet univers des faits. Ça, qu'est-ce que j'ai appelé la double confrontation. S'ouvrir à cet espace, vivre cet espace, vivre cette seule vie qu'on a dans cet horizon athée, bien sûr, d'une manière digne et d'une manière, disons, adulte. Et ce que j'aime pas dans la philosophie, même chez Nietzsche, je trouve ça des fois un peu compliqué, j'ai des problèmes avec cet instrument, on instrumentalise cette image de l'enfant, de l'innocence de l'enfant. Et je crois que pour la philosophie, par exemple, ou pour l'art, pour décrire l'innocence de l'acte artistique, l'acte créatif, ou pour définir la philosophie comme c'est l'enfant philosophique, donc, cette innocence. Et si on veut vraiment continuer à utiliser cette image de l'innocence, il me semble que c'est nécessaire de séparer très, très, d'une manière très, très précise l'innocence idéaliste et fantasmatique ou narcissique de l'enfant ou de cette innocence qui est une innocence qui évite le contact avec le réel, le contact avec qui ne veut pas payer pour ses décisions et pour ses actes, et un nouveau ou un autre concept d'innocence philosophique. Et ça serait une innocence qui implique ce savoir exagéré ou excessif que la vie que vivre sa vie d'une manière authentique nécessite l'ouverture vers cette dimension, cette ouverture aveugle vers cette dimension, cette expérience de l'aveuglement dans cette ouverture vers la dimension du non-vivable ou de l'incommensurable. Alors c'est pour ça que j'ai sur cette feuille, encore une fois, récapitulé ces quatre mots pour parler, pour donner cette définition de la philosophie aveugle comme philosophie de cette expérience de l'aveuglement de l'amour, l'aveuglement du totalisme, l'aveuglement de l'accélération et l'aveuglement de la précision. Ok, maintenant, si vous avez des questions, peut-être. Merci.
Thank you. bonsoir. Est-ce que vous croyez que donc soit un mari, soit une femme qui a un amant un amant et un mari pour une femme, ou une femme et une amante, c'est-à-dire donc deux personnes, quelqu'un qui n'a pas réussi à choisir, serait plus malheureux qu'une personne qui a fait le choix?
Dans le sens de mes mots, ils ont. Mais c'est pas qu'est-ce que j'ai dit. Non, moi je trouve c'est pas la question de restituer ou de défendre. Quand je défends la décision, on peut se décider pour être avec plusieurs. Moi je donne pas la décision. C'est pas une personne. C'est pas ça la question. Mais la décision, c'est de ne pas fermer, de ne pas fermer justement cet espace non positif qui est cet espace de vide. Et moi, je ne vais pas donner des advices, comme on dit en français, des conseils quoi faire pour être heureux d'une manière positive. Alors, chacun, c'est ça l'horreur de Vakui, ou l'horreur de la décision, que personne ne sait à quoi ça mène, cette décision, ou pourquoi on décide. Mais moi, je défends la décision en tant que décision. Je défends la liberté en tant que liberté. Mais je dis pas, il faut être libre pour ça et contre ça, ou il faut décider pour ça et contre ça. C'est justement le contraire. Qu'est-ce que j'essaie de dire en faisant cette différence entre choix et décision?
Pardon. Et deuxièmement, une deuxième question, est-ce que accélération et aveuglement, ça ne conduirait pas, entre guillemets, pour les garçons, à ce que certaines filles appellent un mufle, donc quelqu'un qui prend pas le temps, quelqu'un qui va trop vite?
Moi, je ne fais pas la différence entre les sexes. Je crois que cette différence, elle existe, mais elle est indécidable dans cette différence. Et c'est très, on est toujours dans la production des idéologies qu'on commence à définir ces différences de cette manière. Ça, c'est typiquement masculin, typiquement féminin. Ça, c'est un peu trop simple, il me semble. Mais moi, ce qui me semble important, je connais pas ce mot français, excusez-moi, mais ce qui me semble très important, c'est pour ça que je disais, c'est pas un romantisme, et bien sûr, c'est pas la hystérie que je défends là, la hystérie ou si vous voulez, si je la défends en tant que structure ontologique du sujet, en tant que sujet masculin ou féminin, et si je fais ça, cette accélération hystérique est une accélération vers l'inconnu. C'est tout. Qu'est-ce que je dis? Vers l'inconnu, ça veut dire qui me force de me penser moi-même en tant qu'un sujet qui reste ouvert vers la dimension de la contingence, une contingence universelle, non classifiée, non valuée ou évaluée. Juste la contingence, ça veut dire l'avenir ou dans sa incommensurabilité.
Est-ce que vous ne trouvez pas significatif que, en français, on utilise le mot intérêt à la fois pour l'intérêt qu'on porte à une discipline et intérêt pour l'argent, par exemple, que ce soit le même mot. Pour moi, dans le premier cas, c'est une attirance qui pourrait parler de la commensurable, tandis que dans le deuxième, c'est plutôt le calcul, l'auto-conservation.
Oui, en amont, c'est la même chose. Intéresse, c'est le mot. J'aime le sens, disons, latin de ce mot. Intéresse, d'être dans l'être, dans l'univers des. De la réalité qui est. Mais moi, j'aime pas comme on utilise aussi en allemand, j'aime pas quand quelqu'un, par exemple, quand on est un artiste, quand je fais une visite, par exemple, dans un atelier, un artiste essaye de me montre son travail, Et quand il commence comme ça, moi je m'intéresse pour ça et ça, moi je trouve qu'il a déjà perdu, parce que ce n'est pas la question d'être intéressé dans ça et ça. Moi je crois vraiment, moi je n'aime pas ce mot, j'aime pas cette expression, ni en français ni en allemand, parce que ce n'est pas la question d'intérêt, ou de moi j'aime ça, ou je suis intéressé dans ceci et cela, ou, c'est plutôt... la question d'une assertion. Moi, j'aime le mot allemand, c'est Behauptung. Il n'y a pas une bonne traduction en français. Et, pardon? Non, affirmer, c'est affirmation, mais dans le mot allemand, ce que j'aime, Behauptung, Haupt, c'est un vieux mot pour la tête. Et une Behauptung, une assertion, c'est toujours trop vite. C'est toujours dans cette accélération, dans cette précipitation. Et le sujet est un sujet dans ce sens, pas dans le sens de Georges Bataille, c'est un sujet acéphalique. Hein. C'est un sujet sans tête, qui agit sans tête, mais qui prend la responsabilité pour cette headlessness en anglais. Et ça, c'est ça qu'est-ce que j'aime dans le mot allemand. Il y a dans la Behauptung, dans l'assertion, là, il y a la tête, mais une Behauptung, une assertion n'existe seulement pour un sujet, disons, sans Haupt, sans Caput en latin, alors sans, disons, c'est pas un sujet téléologique, c'est pas un sujet bien orienté, c'est pas un sujet programmé comme un programme, comme un ordinateur ou un programme peut être programmé. Mais faire une décision ou s'affirmer soi-même en tant que sujet, c'est ça, de expérimenter le manque de programmation. Alors le manque de tête. Alors, et c'est pour ça, la philosophie, c'est pas le savoir, c'est pas un exercice du savoir. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir, de comprendre si on comprend. Ou de savoir, ou une certaine intellectualité. Je défends toujours ça. Moi, je trouve il y a rien de plus pire. Il y a un très beau texte de Roland Barthes sur ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus pire que cette, chez des artistes, des fois, ça existe, des fois, une certaine aversion concernant toute forme d'intellectualité. Moi, je trouve ça très bête et c'est pas ça qu'est-ce que je défends. Mais je sais, c'est pas tout de savoir. Et la philosophie, c'est pas lire les grandes œuvres philosophiques des derniers 2500 ans et après écrire soi-même quelques livres, enseigner à l'université et donner des informations concernant ceci et cela. C'est justement quelque chose tout à fait autre. Et moi, je défends la philosophie comme cette auto-accélération précise qui est plutôt l'expérience de l'inconnu et moins, disons, un exercice du savoir.
Bonjour. Moi, je voulais savoir si vous avez fait la différence entre totalisme et totalitarisme, et je voulais, si vous pouviez... montrer, enfin, définir un peu la différence entre ce que vous dites qui fait partie du totalitarisme et ce qui serait des concepts de l'universel et de cette idée de la philosophie qui est pour accéder à un universel.
Oui, en effet, j'ai fait cette différence, totalisme, et je ne suis pas le premier. Il y a un Slavoj Žižek qui faisait cette différence déjà, mais il ne parle pas trop de... Totalisme n'est pas une notion qu'il utilise trop, mais bien sûr, cette définition, pour moi, c'est clair. Le totalisme, c'est toucher l'universel, ou des universalités, mais des universalités non données. Ce ne sont pas des idées platoniques, c'est pas ça. C'est pas un retourner, ou c'est pas une restitution, disons, du idéalisme platonique de cette tradition de la philosophie. Mais c'est l'universel, c'est justement le mot pour... Alors, tous les grands concepts philosophiques sont des concepts universels. Amour, justice, liberté. Et moi, je trouve ça très, très... Il y a cette différence entre Jean-Luc Nancy et Jacques Derrida, des amis. Et Derrida, il y a ce livre, L'expérience de la liberté de Jean-Luc Nancy, un très beau livre. Et Derrida a écrit là-dessus, dans Voyou, il y a un passage, et c'est typiquement, je dis ça, je suis plein d'admiration pour Derrida, comme pour tous les grands philosophes. Il y a une admiration de 100%, un amour de 100%. On n'aime pas si on aime de 30%. On peut toujours aimer 100%. Comme je dis, c'est ça le totalisme. Et, mais même, ce amour de Derrida m'évite pas de dire que là, je trouve, il y a un moment faible chez Derrida parce qu'il il écrit quelque chose sur ce livre de Nancy et dit à peu près, oui, ce que j'ai toujours admiré chez mon ami Jean-Luc Nancy, c'est qu'il a le courage de continuer à utiliser ces grands mots quasi métaphysiques comme par exemple sens, qui est un mot principal de la tradition philosophique, bien sûr, mais aussi de la philosophie de Jean-Luc Nancy. Et bien sûr, Derrida, elle est philosophe beaucoup plus intéressant en relation avec Nancy. Pour moi, c'est tout clair. Mais c'est ça, qu'est-ce que j'aime chez Nancy. J'aime ce risque de continuer à travailler. C'est ça ma définition de philosophie, d'être en contact avec ces notions qui sont trop grandes, avec ces notions ou ces concepts totaux, avec qui font ce contact fait bien sûr de nous-mêmes, de ce du sujet de la philosophie, un sujet qui est déjà dans l'exagération, un sujet qui est déjà dans la perte, parce que tu es perdu quand tu es confronté avec la question de la liberté ou la justice ou l'égalité ou la beauté ou de l'amour. Et mais moi, comme je disais, moi j'aime justement, c'est ça qu'est-ce que j'aime aussi dans la tradition philosophique. J'accepte pas tous les modèles concernant ces concepts, bien sûr que non. Et mais ce que j'aime, c'est le hyperbolisme, l'exagération philosophique qui n'arrête pas à accélérer vers cette dimension des concepts non donnés. Et c'est pour ça que philosophie est philosophie d'assertion, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'argument, et ce n'est pas la question des opinions, bien sûr, mais c'est la question d'une assertion des concepts vides, et continuer à donner des réponses sur des questions, peut-être des questions pas posées. Et une autre définition de philosophie que je propose. Souvent, quand on écoute ça dans des conférences philosophiques, même Slavoj Žižek et d'autres, ils disent des trucs comme, ou Heidegger, bien sûr, ils disent, en allemand, das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens, le questionnement et la Frömmigkeit, comment on dit, la foire, disons, de la pensée. Et moi, je trouve ce que j'aime dans la philosophie, ou ce que je défends en tant que philosophie, c'est plutôt de prendre le risque de donner certaines réponses et de proposer des définitions. Mais ce sont des définitions et des réponses sans épreuve, sans alibi, sans épreuve. Et c'est ça, toucher l'intouchable ou toucher l'universalité, c'est de s'affirmer soi-même en tant que sujet de se toucher, mais en même temps de savoir ou d'expérimenter la limite du propre savoir, de la possible. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la liberté, mais quand même donner des réponses sur ces grandes questions. Qu'est-ce que c'est liberté? Qu'est-ce que c'est amour? Qu'est-ce que c'est justice? C'est ça, qu'est-ce que fait la philosophie pour moi? Qu'est-ce que aussi important, aussi, oui, pourquoi pas, existentiel, aussi important. La philosophie, comme je disais, c'est pas écrire des livres, mais la philosophie, c'est une manière d'être. Sa philosophie, c'est vivre sa vie, comme je disais, c'est un mode d'existence, comme l'art est un mode d'existence, et c'est pas produire la culture, ou produire du savoir, ou expérimenter les limites du savoir, même pas ça. C'est pas Erkenntnis Theorie, philosophie du savoir. J'aurais jamais décidé de faire philosophie ou d'être philosophe si ce serait ceci. Mais c'est plutôt s'affirmer, c'est plutôt comme j'essayais de dire, La philosophie est un mode d'existence qui implique l'affirmation du non vivable de ma propre vie. Et oui, c'est ça. C'est ça la définition que je propose. Ok, c'est bon. Merci. Merci.